6.
Youpi! Oui, bon, d'accord. Ouais, puis, d'un côté, évidemment, bon communicateur. Mais de l'autre côté, communiquer. Quoi, pour ce juste? Et pourtant...
Un sociologue, pas comme les autres. Joseph Facal.
S'il y a un texte à lire sur l'éducation au Québec, c'est celui que signe Joseph aujourd'hui dans le journal, 10 convictions personnelles sur l'éducation. Et je suis convaincu, vous allez lire le texte de Joseph, sa chronique, et vous allez partager ses convictions aussi. Ben, Joseph, donc 10 règles, hein, 10 règles sur l'éducation. Écoute, on pourrait passer un après l'autre les règles, mais écoute, je vais en prendre comme ça au hasard. L'école ne peut pas tout enseigner. Ça, c'est important. Parle-nous de ça.
Richard, il ne se passe pas une journée sans que je lise dans le journal suite à une tragédie causée par un problème de santé mentale, suite à un incident clairement raciste, suite à une mauvaise nouvelle sur le front de l'écologie, suite à le fait qu'on découvre que le Québécois moyen ou le Canadien moyen a un niveau d'endettement personnel faramineux, inévitablement, on va citer quelqu'un qui va te dire « ben, il faudrait enseigner ça à l'école ». Donc, évidemment, il faudrait que l'école aborde toutes les problématiques sociales. Ben, je m'excuse, Richard. Je ne sais pas comment sont tes enfants, mais moi, je me rappelle qu'au bout d'un certain nombre d'heures, il y a des limites à ce que le cerveau, qui est comme une éponge, peut emmagasiner. Et qu'est-ce que tu veux? La semaine scolaire, la dernière fois que j'ai vérifié, n'avait que 5 jours. Alors, si on déplore que nos jeunes ont déjà des problèmes en français, ont déjà des problèmes en histoire, ont déjà des problèmes dans les matières de base, et qu'en plus, il faut que tu rentres dans le programme scolaire tous les soucis par ailleurs légitimes que l'on peut avoir, ben écoute, à chasser 32 lièvres à la fois, on va tous les échapper.
Ben tu parles de chasse et moi je vais te parler de pêche, la fameuse métaphore, allégorie biblique, je pense. Il faut pas donner un poisson à quelqu'un, il faut lui montrer comment pêcher. Alors c'est ça, il faut montrer aux jeunes comment s'informer, comment après ça, eux autres, aller chercher les connaissances, ben c'est ça, là.
Oui, mais ça nous ramène, tiens, au troisième de mes dix observations, qui est, c'est quoi le but de l'école? Alors évidemment, à chaque fois que j'écris, il y aura des commentaires des lecteurs qui auront ce que j'appelle une conception instrumentale de l'école. L'école est supposée tout outiller pour le marché du travail. Le problème, Richard, c'est qu'on ne sait pas du tout quelles seront les compétences nécessaires dans 10 ans, 15 ans. Tu te rappelles, dans les années 80, quand on formait à la tonne des programmeurs en informatique, parce que supposément c'était ça la voie de l'avenir. Autrement dit, tout change tellement vite que vouloir outiller un enfant avec un coffre à outils pour le marché, c'est pas la bonne approche. D'autres enseignants, eux, qui veulent changer le monde, veulent transformer nos enfants en petits militants de leur cause à eux. C'est pas non plus la bonne approche. Ce qu'il faut, c'est une culture générale, une capacité à raisonner, un esprit critique, et ils vont résoudre eux-mêmes leurs problèmes. Le problème, évidemment, c'est que, et je blâme pas, Richard, je regarde aller nos 10, 12, 15 derniers ministres de l'éducation, et ils n'en ont, je peux les comprendre, que pour les classes sans prof, pour les toitures qui coulent, pour la qualité de l'air, ainsi de suite. On est dans le matériel, on est dans le béton, ce que je peux comprendre. Mais Richard, nous sommes dus pour un grand exercice collectif de type états généraux, où on va tout remettre à plat et égorger toutes les vaches sacrées.
On n'est même pas capable d'enseigner des connaissances de base, c'est-à-dire lire, compter, réfléchir. On n'est même pas capable de faire ça. Fait qu'avant de leur enseigner toutes sortes de maudites affaires, on peut-tu commencer par ça? Se recentrer sur la mission de base de l'école.
Ben oui. Hey Richard, et j'en profite pour te donner un mini-scoop. L'ancien recteur de l'Université de Montréal, Robert Lacroix, qui reste extrêmement actif, vient de publier avec son ancien collègue Claude Montmarquette un livre qui va beaucoup faire jaser sur les différences gars-filles dans l'université québécoise.
Oh.
Richard, quel est le pourcentage de filles dans les universités du Québec?
C'est de loin, mais écoute, ils sont beaucoup plus présentes que les gars, c'est sûr et certain.
62%. 62% des étudiants à l'université sont des filles. Alors évidemment, il est vrai qu'encore aujourd'hui, il y a un écart salarial en faveur des hommes, mais projetons-nous dans 5 ans, 10 ans. Les garçons, pour le moment, ne font pas encore les frais, ne sont pas encore pénalisés par leur sous-scolarisation. C'est probablement pour ça qu'on s'en sacre complètement. Mais, comme l'évoque lui-même M. Lacroix dans une entrevue publiée dans notre journal, quand tu penses qu'aujourd'hui un bûcheron est remplacé par une machine qui peut faire la job de 10 bûcherons, quand tu penses que n'importe quel poste demande un enseignement post-secondaire, eh ben les garçons sont aujourd'hui en train de prendre un retard par rapport aux filles qui est en train de devenir dramatique. Et je sais que deux vieux mononcles comme toi et moi, on fera pas brailler grand monde en disant ça, mais les garçons sont en train d'être largués par notre système scolaire.
Est-ce que je pourrais, ça m'amène, est-ce que je pourrais ajouter une 11e conviction à ta liste?
Ah oui, donc?
L'enseignement supérieur n'est pas pour tout le monde.
Ah, oh, mon Dieu.
Est-ce qu'on peut ajouter cette affaire-là? Tu sais, à un moment donné, on a dit, il faut que tout le monde aille à l'université, puis tout ça. Non, tu peux avoir, tu sais, là, les parents sont déçus parce que leurs enfants vont pas à l'université, mais ils peuvent avoir une excellente vie, gagner très bien leur vie, puis ailleurs qu'aller à l'université.
Richard, il y a quelque temps, j'ai essayé de trouver un contracteur. Bonne chance. Il y a quelques années, je me rappelle, j'essayais de trouver un briqueteur. Bonne chance. Essaie de trouver un plombier. Essaie de trouver un électricien. Nous avons dévalorisé les métiers manuels et permets-moi, à mon âge, de devenir nostalgique. J'entends encore Jacques Parizeau, à la fin des années 80, au début des années 90, dire « on a saccagé l'enseignement professionnel et technique en envoyant à l'université des cohortes d'étudiants totalement perdus qui sont pas heureux pantoute et qui gagneraient beaucoup mieux et très honorablement leur vie avec un métier manuel. Ce que l'on fait d'ailleurs dans des pays aussi arriérés que l'Allemagne et les pays scandinaves où il n'y a aucune honte à avoir un métier manuel. »
Tout à fait.
Enfin.
Ta troisième conviction personnelle, oh là là. Alors, oh là, non, ta quatrième, excuse-moi, ta quatrième conviction, là, on va dire, bien sûr, le gars de droite, facal, le facho. Alors, c'est très important. Une classe n'est pas une arène démocratique où la majorité décide. Le prof sait, l'élève ne sait pas. Oh, mon Dieu, que c'est épouvantable de dire ça.
La classe n'est pas un parlement, la classe n'est pas un camp de vacances, le prof n'est pas l'ami, n'est pas le grand frère. Il y a une raison pour laquelle, jadis, ça s'appelait la formation des maîtres. Maître, celui qui sait. Évidemment, théoriquement, il devrait savoir. Ce qui pose toute la question de comment on forme les futurs enseignants. Mais c'est quoi cette idée? C'est quoi cette idée? Qu'un flot de 8, 10, 12 ans va savoir ce qui est bon pour lui et va apprendre par lui-même. Ben voyons donc. Nos facultés de l'éducation sont peuplées d'idéologues qui avancent des théories socio-constructivistes complètement démenties ou non validées par la recherche. Et tu as des vrais spécialistes en éducation, Normand Baillargeon, Steve Bissonnette et d'autres, qui depuis des années lancent des signaux d'alarme. Richard, en éducation, on sait ce qui marche et on sait ce qui marche pas. On pourrait-tu faire ce qui marche? Il y a encore des gens qui disent, par exemple, que les tests, les devoirs, ça sert à rien. Je comprends qu'un devoir mal conçu peut ne pas aider, mais des exercices de répétition bien conçus vont aider. Vas-tu devenir pianiste sans pratiquer, sans faire tes gammes? Vas-tu devenir joueur de hockey sans patiner? Non. Ben, il y a du monde qui pense qu'on peut réussir sans étudier.
Hey, j'avais des amis qui étaient profs à l'UQAM, puis tu sais, ton premier cours, c'est que tu donnes ton cursus, puis c'est les étudiants qui vont débattre entre eux en disant, ben là, c'est-tu correct la façon dont ils voient le cours, puis les livres qu'ils nous font lire, puis tout ça. Fait que, attends une minute, c'est quoi cette affaire-là?
Et ils vont négocier la charge de travail, ils vont négocier les modalités d'évaluation. Ben voyons.
Ben voyons.
Tu te rappelles au moment du débat sur la loi 21, sur la laïcité, alors le gouvernement de la CAQ a décidé d'assujettir les enseignants à la loi parce que c'est une figure d'autorité. Et il y a du monde qui se sont insurgés en disant « Quoi? Le prof, une figure d'autorité? » Ben je m'excuse. Dans une société où on ne voit pas dans le ou la prof une figure d'autorité, on a un méchant problème. L'autorité, c'est pas être dictatorial, c'est pas être bête et méchant, c'est tout simplement définir des règles. Et les enfants sont les premiers à demander des règles. Richard, après toutes ces années à l'université, je suis encore évalué par mes étudiants, et une chose revient tout le temps, ils me disent, avec vous, c'est clair, on sait exactement ce que vous attendez de nous. Ils veulent des règles.
Et tu sais comment on aime le cinéma, les gens savent comment on aime le cinéma, toi et moi, la fameuse phrase de Tom Hanks dans A League of Their Own, « There's no crying in baseball ». On pourrait dire ça aussi, « There's no crying in school ». C'est ça, là, c'est ça la charge. Arrête de pleurer et pleurnicher, là.
Et le problème, Richard, c'est que comme je l'écris, je sais plus trop ailleurs dans ma chronique, la vie future ne fera pas de cadeaux. Quand ils vont arriver sur le marché, ils vont découvrir le capitalisme hardcore. T'es mieux de faire la job, t'es mieux de performer, ou sinon c'est bye-bye. Alors évidemment, si on les a trop dorlotés, on ne leur rend pas service.
Exactement.
Ça a l'air que c'est la journée des citations, Nietzsche. Tout ce qui ne tue pas rend plus fort. C'est une maudite bonne affaire de connaître l'échec. Tu t'essuies les bottines, tu te relèves, puis tu retournes dans le ring. Mais si on te dit toujours que t'es le plus beau et le plus fin, le jour où tu te cognes vraiment le nez contre le mur, il va t'arriver quoi?
Ta huitième conviction. Oh là là, ça aussi c'est un tabou d'écrire ça. Je sais pas comment t'as fait. Les enfants sont tous égaux en droit et en dignité, mais pas en talent.
Ben
c'est
là,
une vérité.
Ben oui, Richard. Moi, je suis absolument... encore une fois, ça, c'est l'histoire du Québec. On part d'une bonne intention, mais on va trop loin. Que l'on veuille, par exemple, intégrer 2 ou 3 élèves en difficulté dans une classe de 30, OK, d'accord. À la limite, j'accepte l'argument que si tu mets tous les enfants en difficulté dans des classes étiquetées faibles, ça risque de pas être très, très bon pour ce qu'on appelle leur estime de soi. Mais là, c'est rendu qu'on a été tellement loin que dans des classes dites régulières, t'as le tiers, la moitié des enfants qui ont de sérieux problèmes. Alors évidemment, là, je m'excuse, ça rend la job du prof impossible et ça pénalise l'ensemble du collectif. Je te dis pas qu'il faut nécessairement revenir, comme jadis, aux classes enrichies, moyennes et faibles. Je sais pas, je suis ouvert à ça, mais ne faisons pas semblant que les enfants sont tous égaux en talent. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. C'est la dure loi de la vie.
Bon. Et en terminant, on pourrait rajouter une 12e conviction, et tu avais déjà écrit là-dessus, je crois, Joseph, et tous les fans de Dead Poets Society, Captain, Oh My Captain, vont être d'accord. L'éducation, ce n'est pas une science, c'est un art.
Ah ben oui. Écoute, je parle souvent de ça avec mes amis. Le don pédagogique pogné auprès de tes élèves en classe, tu l'as
ou tu ne l'as pas.
Je comprends qu'il y a quelques petits trucs du genre « regarde-les dans les yeux, regarde pas le bout de tes souliers, là, tu sais, établis un contact ». Je comprends, là, mais fondamentalement, tu l'as ou tu l'as pas. Ça, au fond, c'est comme donner un bon show. C'est comme être un acteur. Il y a Tom Hanks, puis il y a pas Tom Hanks.
Il y a Robin Williams. Il y a Robin Williams qui montait sur le bureau, puis bon,
c'est ça.
Qui est capable de le faire. Tu sais, t'as beau avoir là, toutes les guidelines, puis les paramètres, puis tout ça, puis un cursus, puis des pédagogues qui arrivent, puis voici ce qu'il faut t'enseigner. Reste que à la fin de la journée, c'est un prof devant 30 élèves.
Et j'ai l'impression, Richard, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme, ben tiens, comme toi, animer une émission à la radio. Il y en a qui l'ont, puis il y en a qui l'ont pas. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Puis c'est comme écrire une chronique, il y en a qui l'ont, il y en a qui l'ont pas, puis tu l'as! Joseph, tu l'as! Alors, 10 convictions personnelles sur l'éducation à découper, à mettre sur notre frigo, tout le monde. Merci, Joseph. Vendredi, on parle de cinéma, bien sûr. Salut!
Avec plaisir, salut!